Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Méditer un texte dans notre Bible, et je voudrais simplement faire un rappel pour les uns et pour les autres, c'est que nous disposons d'un trésor, et peut-être nous le considérons, peut-être pas toujours, comme un trésor de Dieu, parce que nous sommes tellement familiarisés avec ce trésor. Alors j'aimerais justement redonner quelques éléments de réflexion, et nous puissions penser eh bien, à ce cadeau de Dieu, parce que j'estime que c'est véritablement un cadeau de Dieu, que Dieu nous a fait. Je voudrais vous parler de la Bible, du livre des livres. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est pas nous, c'est pas notre appellation propre aux chrétiens, mais c'est ce que, à l'extérieur, on appelle la Bible le livre des livres. Et j'aimerais justement que nous cheminions sur quelques éléments, ce sera d'ordre général naturellement, mais il y a tellement de choses formidables et extraordinaires. Alors, à ce titre, j'aimerais que nous fassions une première lecture dans Matthieu chapitre 11. Si vous voulez bien, nous allons prendre en considération ces paroles qui sont les paroles mêmes de Jésus. Et dans ces quelques lignes, eh bien, nous avons déjà quelques éléments, nous avons des éléments qui vont nous faire avancer dans cette méditation. Alors, Matthieu, j'ai dit, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Telle est la volonté de celui qui, eh bien, nous a laissé aussi ce trésor qu'est la Bible. Tu l'as voulu ainsi. Et si c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Nous allons faire une deuxième lecture, cette fois-ci dans le livre du prophète Ésaïe. Et nous avons un texte très intéressant aussi, peut-être parfois enfoui parce que nous ne prêtons pas toujours attention, nous lisons des chapitres, nous lisons parfois des chapitres et des chapitres entiers, et puis, eh bien voilà, nous lisons, tout simplement. Et dans ce livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29, le verset 9, nous allons lire cela. Et c'est peut-être aussi, eh bien, une réponse où il est dit « Tu l'as caché aux sages et aux intelligents » et nous reprenons par ce texte, verset 9, « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis » car il est cacheté, il est fermé ce livre, hein, c'est l'interprétation. Ou comme un homme que l'on donne, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et de ce que tu les as révélées aux enfants. » On peut donner cette complémentarité. Puis un dernier texte qui est un récit dans le livre des Actes et qui est intéressant en son genre parce que quand on veut, quand on cherche, quand on désire, quand on aspire, quand on soupire après la vérité, bien moi je voudrais vous dire, c'est que Dieu se fait connaître à nous. Et il nous parle. Oui, parce que Dieu parle. Peut-être certains diront, mais moi j'ai jamais entendu Dieu. Ben pourtant, il vous répondra, vous avez des oreilles? Alors si vous avez des oreilles, écoutez. Mais on n'écoute pas seulement des oreilles. Il faut que les oreilles soient en accord avec notre corps, avec notre cœur. Et nous avons ce passage intéressant, donc, dans le livre des Actes, au chapitre 9, et au verset 30, il s'agit d'un évangéliste qui s'appelle Philippe, qui accourt, verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien, qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Voilà. Vous avez remarqué dans le prophète Ésaïe tout à l'heure, on donne un livre à quelqu'un qui sait lire et qui dit « je ne peux pas le lire parce que je sais lire, mais je comprends pas ce que je lis ». Bon, c'est réellement un problème. Et puis on va faire la même chose avec quelqu'un qui ne sait pas lire, on va lui donner le même livre et on va lui dire « bien, lis cela ». Et il va dire « mais je suis bien embarrassé parce que quelque part, je ne sais pas lire ». Alors, vous en jugerez vous-même à travers la ce que nous allons débattre dans et parler, mais c'est véritablement la question qui se pose par rapport à la Bible. La Bible de tous les temps, la Bible des hommes d'hier, l'ancien, l'antique, comme l'homme moderne, où on peut toujours donner la Bible. Certains vous diront, eh bien moi j'ai une érudition, je sais lire. Je ne sais pas lire seulement une langue, mais je peux en lire 10, 20. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Même deux. Et il dira, mais je ne comprends pas. Et pourtant, je sais lire, je connais les mots, je connais le sens des phrases, mais je ne sais pas, c'est fermé, je n'y arrive pas. Et puis, vous faites la même chose avec un autre qui vous dira, eh bien, tout simplement, lis, et qui dira, mais qu'est-ce que vous voulez, je prends le livre à l'endroit, à l'envers, que je le prenne sur le côté ou que je lise la couverture. Je ne sais pas lire, donc je ne comprends pas. Alors, on va voir ça. La Bible, figurez-vous, depuis des siècles, oui, des siècles, a suscité d'innombrables interrogations, voire même des controverses. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est pas comme ça, même sur des textes qui sont très clairs et qui ont été, formidablement énoncés ou formulés, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne comprends pas. Donc, alors avec tout ça, on va essayer de... y en a qui en tireront des fausses doctrines, qui diront, bien, Dieu s'est trompé, et puis, voilà. On interprète et on spécule. Vous parlez de la Bible, il faut lui parler de sa valeur, qui est une littérature exceptionnelle. Je voudrais quand même le rappeler. Alors, je sais que je m'adresse à des biblistes. Vous connaissez la Bible, vous la lisez tous les jours. Peut-être qu'il y a aussi des amis qui nous rejoignent et qui sont en train de faire la découverte de ce qu'est la Bible. Alors, moi, je voudrais dire que c'est une littérature qui est autrement que toutes les littératures du monde. Une littérature d'exception. Par son inspiration, parce qu'il ne s'agit pas d'une inspiration humaine, mais ça vient d'ailleurs. Et également par sa composition, imaginez-vous, dans l'espace de quelques 40 et quelques siècles, où là, eh bien, tant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, eh bien, nous avons, qui est arrivé jusqu'à nous, eh bien, on s'aperçoit que ça traversait le temps. Souvent, on parle de lui comme un vieux livre poussiéreux que l'on met dans les rebuts là, d'une bibliothèque dont on n'ouvre jamais. Elle a traversé le temps. Et il y a une étonnante beauté morale. Eh oui. Souvent, les gens nous disent, regardez, votre Bible, il y a marqué sainte. Si elle était sainte, eh bien, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a écrit dedans. Il est question de crime, il est question de toutes sortes de choses. On en reparlera d'ici quelques instants. Les sujets traités dans ces pages peuvent heurter, oui, il faut le dire, des sujets qui heurtent quelquefois, eh bien, tout simplement la conscience humaine, en disant, bien, oh là là, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a pu lire, tels que des sujets, le monde avec le mal qui existe dans le monde, la vie, pourquoi la vie, on est fait pourquoi, tout simplement, D'autres problèmes peuvent heurter, tels que la souffrance. Oui, les détresses qui existent, tous ces faits qui sont les faits non pas de Dieu, mais les faits des hommes, tels que la guerre, la destruction, la mort, l'éternité. Alors, tout cela eh bien, est abordé. Et pourtant, je voudrais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer maintenant, c'est que sa lecture, elle est bienfaisante. Elle est bénéfique à l'homme. Parce qu'elle a un mérite, et nous allons le développer d'ici quelques instants, c'est de nous ouvrir le cœur. C'est pas tant, et nous ne rejetons pas l'intelligence et la réflexion, nous n'abdiquons pas parce que Dieu nous a donné une intelligence, mais ça doit aller au-delà, finalement, et bien de cette dimension intellectuelle et cérébrale. Elle est bienfaisante, et je dirais que même, et nous en avons fait l'expérience, elle est guérissante, la Bible. C'est un message guérissant. C'est un message qui fait le bien à nous, qui fait du bien à nos corps, à nos âmes, et qui fait naître l'esprit. C'est ça la Bible. Autant physique, moral, psychique, spirituel. Et cette lecture, cette parole place l'homme en face de lui-même. Oui, c'est pas de connaître tous les mystères, de pénétrer là l'inconnaissable, d'essayer de trouver des réponses et des solutions à telles choses qui sont au-delà de notre compréhension. Non, mais ça nous ramène à nous-mêmes. D'ailleurs, elle est comparée dans le Nouveau Testament à un homme qui se regarde dans un miroir, comme nous l'avons fait vraisemblablement tous ce matin avant de venir au culte. Parce que, après une nuit de sommeil, quelquefois, hein, vous comprenez, mais on se remet en ordre. On fait notre toilette, on se remet pour être beau, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Naturellement, on ne va pas venir dans complètement endormi et puis déconfit. Hein. Et nous voyons que cette parole procure à l'homme une saine connaissance à la fois de lui-même, mais au regard de quelqu'un qui nous parle, qui est notre Créateur. Et s'il y a quelqu'un qui peut bien nous connaître, c'est Dieu. Comme un père, comme des parents connaissent bien les enfants dont ils sont issus naturellement. Alors, connaissance du Créateur. Et il nous dit la vérité sur ce qu'il est. Il nous dit la vérité sur ce que nous sommes. Et il nous apprend aussi, eh bien là, les rudiments, l'essentiel pour nous approcher de lui. Pas pour le fuir. Pas faire comme Adam et Ève qui se sont enfuis, qui se sont cachés, qui se sont dissimulés. Mais au contraire, pour s'approcher de lui. Pour arriver à une communion, une intimité, même une amitié avec lui. Et il n'est pas question de religion dans la Bible. Dans la Bible, il n'est pas question de fausse doctrine, ou lorsqu'il est question de religion et de fausse doctrine, c'est pour nous dire que Dieu a parlé et nous a donné le chemin à suivre. Et toutes les voies sans issue, toutes les voies en parallèle, eh bien, il nous en parle également, pour nous tenir en garde, pour nous prévenir. Et tout cela a pour but d'une invitation à une rencontre personnelle avec lui. Si vous lisez, par exemple, l'Ancien comme le Nouveau Testament, les patriarches ou dans l'histoire de Jésus des apôtres, c'est toujours une histoire de rencontre entre les hommes. Et entre les hommes et leur Dieu. Et Dieu, plutôt. Il y en a des centaines et des centaines avec des belles histoires. Et des histoires inattendues, des histoires qui n'étaient pas prévisibles dans l'esprit de l'homme. Et là, bouleversé et renversé, ça c'est l'histoire de la Bible. Rencontre personnelle et décisive avec celui qu'elle proclame comme le seul sauveur. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire rencontrer Jésus-Christ. Eh oui, la Bible a un sujet particulier depuis le début jusqu'à la fin, présenté prophétiquement par des prédictions sortant du fond des âges jusqu'à la réalisation lorsque nous ouvrons l'évangile, une personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui est le reflet et la gloire, l'empreinte de la personne de Dieu. Dieu se faisant homme, vivant parmi les hommes, mourant pour les hommes et ressuscitant pour que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est le message principal de la Bible. 1900, 2000 traductions, dialectes et langues différentes sur la terre. Aucun livre n'a été finalement et bien traduit autant. On dit que c'est un best-seller universel. Et aujourd'hui, il y a encore des centaines et des millions de Bibles qui sont vendues chaque année. Ah, hélas, pas dans notre pays, je voudrais vous le dire. Les premiers seront les derniers, hein, d'accord? Portion d'évangile, portion biblique, peu importe, mais il est ainsi. En quelque sorte, imaginez-vous la Bible comme une grande bibliothèque, où vous avez des livres, partout. Et cette bibliothèque, elle a été réunie en un seul. Alors vous savez qu'il y a des Bibles gigantesques, hein. Voilà, elles sont énormes. Et puis, il y a des Bibles qui sont toutes petites et elles sont complètes. Il y a même, j'en ai une à la maison, en microfilm. C'est un petit carré qui est à peu près grand comme, ça fait 3-4 centimètres, et toute la Bible est écrite dessus. Alors bien sûr, il faut avoir l'instrument pour pouvoir le lire, parce qu'imaginez-vous, même avec des lunettes, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Oui, en microfilm, tout simplement. Un seul volume pour 66 livres, vous retiendrez, 66 livres dans la Bible, hein. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, dans le contenu. Alors là, c'est peut-être un peu rébarbatif, hein, parfois, mais dont le contenu va de prescriptions, de codes, de lois, de chroniques historiques. Il y a les livres des rois, enfin, il y a toutes sortes de choses, l'histoire d'Israël. Des livres qui nous parlent de géographie, de zoologie. C'est extraordinaire, de stratégie même. Je pense au peuple juif. D'hymnes et de poèmes, les psaumes par exemple, de réflexions morales, de la plus haute pensée, le sermon sur la montagne, parce qu'il y a rien n'a été fait aussi beau et aussi grand que le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui l'a donné, offrant au lecteur réceptif ce que le cœur aspire de meilleur. Et tout homme qui reconnaît en Dieu son Créateur, eh bien, a en lui, normalement, cette aspiration à aller vers le bien. Oui, cette aspiration au bien, et cette aspiration au bien est suscitée par le mal qui existe autour de nous, et quelquefois même en nous-mêmes, avec un soupir en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que ce monde ?» Pour nous, dans notre société moderne, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la consommation, que finalement boire, manger et mourir ? Et tous les hommes se sont posés la même question, quelque part. Hein. Tels que des thèmes comme la liberté, par exemple. Les hommes, pendant des siècles et des siècles, ils se battent encore pour la liberté. Ils sont prêts à donner leur vie. Mais il y a une vraie liberté, qui n'est pas une liberté d'extérieur, mais une liberté intérieure. Et quand on est libre intérieurement, on est libre aussi extérieurement. Jésus fera un discours là-dessus. La vérité, où est la vérité? Le bonheur, prétention au bonheur, c'est normal. Mais le bonheur, quel est-il? Comment se formule-t-il? Comment se vit-il ce bonheur? C'est comme une chimère, c'est comme un mirage. Dès que l'on s'approche, il s'enfuit. C'est la vie. Je voudrais vous dire également que la Bible couvre le temps et l'espace, qui comprend des origines de la vie, le livre de la Genèse, c'est pour ça qu'on l'appelle Genèse, jusqu'au crépuscule de l'humanité, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, l'histoire de l'homme sur la terre. Il y a le passé, il y a le présent, et puis il y a l'avenir. Il est question aussi du devenir du monde, notre monde à nous, parce qu'il y en a eu d'autres avant nous, et peut-être y en aura-t-il aussi après nous, mais nous sentons que le temps se resserre et que finalement, eh bien, il y a un écho qui se fait de plus en plus entendre dans notre monde, dans nos sociétés, où la Terre est devenue un petit village parce que par le rapprochement, la communication, où nous entendons déjà cette voix où il nous est dit « Mais préparez-vous parce que l'époux vient. Préparez-vous parce qu'il revient. » Donc, le temps, le devenir du monde n'est pas entre les mains de l'homme, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Quand on voit s'agiter tous ces gouvernants, tous ces hommes politiques, ces puissants, d'une manière ou d'une autre, soit en politique ou en finance ou autre chose, qui pensent tenir les rênes, mais nous nous apercevons que ce n'est pas entre les mains des pouvoirs, ce n'est pas entre les mains de tout ce que nous pouvons imaginer, naturellement, mais je dirais que chaque individu, chaque nation, chaque civilisation apparaît et disparaît dans un but qui échappe à l'intelligence des mortels. Parce que il y a eu des gens avant nous, il y a eu des sociétés avant nous, il y a eu des civilisations avec nous avant nous. Elles nous ont légué certainement quelque chose en bien ou en mal, mais nous reconstruisons toujours. Et souvent, malheureusement, l'histoire de l'humanité, elle construit avec les pierres en ruine de ce qui avait été édifié auparavant. On appelle ça un nouveau monde à chaque fois. Un nouveau monde apparaît. Hein? L'ordre nouveau. Et ce n'est pas entre le pouvoir des hommes. La Bible, je l'ai dit, révèle le temps, l'éternité. Mais ce temps et cette éternité, c'est assez troublant parce que elle crie fort la vérité sur ce que j'appellerais la souveraineté silencieuse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se tait dans tout cela. Enfin, pour ceux qui ne savent pas l'entendre, parce que il dit aussi, il parle. Mais toujours est-il que tout est renfermé dans un silence. Ou, quelquefois, dans la colère et dans la fureur des hommes, on dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Et pourtant, Dieu parle. Et il a choisi de parler à travers un moyen qui a traversé l'histoire, l'évolution des hommes, l'écriture. On l'appelle aussi l'écriture sainte. Oui, chaque société a une écriture, naturellement, qui correspond à une langue. Mais on s'aperçoit que Dieu a choisi. Si Jésus était arrivé dans notre 21e siècle, il serait peut-être servi de l'ordinateur. Il était loin encore l'ordinateur à l'époque, hein. Oui, mais la transcription des paroles, d'abord orale et ensuite par l'écriture, a donné ce livre extraordinaire et merveilleux que l'on appelle la Bible. Et ce livre survit, il a survécu. Laissez-moi vous parler des auteurs de la Bible. Alors, quand je dis auteur, ne pas confondre avec l'inspirateur, hein. Parce que de toute façon, tout auteur d'un roman ou de, je ne sais pas, d'une nouvelle, eh bien, il est inspiré par quelque chose. Ça, c'est sûr. Inspiré par lui-même, ses connaissances, enfin. Voilà. Ça, c'est l'écrivain. Mais laissez-moi vous parler des auteurs de la Bible qui, eux, ont reçu quelque chose, un message. Non pas seulement un message pour leur temps et pour eux-mêmes, mais un message pour tous les temps et pour tous les autres, en quelque sorte. Ils sont au nombre, dans ces 66 livres, de 40 auteurs, 40 écrivains que l'on appellera pudiquement, eh bien, les écrivains sacrés, en quelque sorte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, et ça, ce n'est pas moins surprenant, c'est que finalement, ils ont vécu dans l'espace de plusieurs siècles sans naturellement se connaître, et ils ont tous donné le même message. Toute leur révélation et leur écriture a convergé, vers un seul but, dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, Jésus-Christ. Même dans les temps les plus enfouis dans l'histoire, hein. Je pense au livre de la Genèse, je pense au premier livre, le Pentateuque par exemple, les 5 premiers livres de la Bible. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu toute une succession d'hommes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu pour dire, pour écrire, pour transmettre un message prophétique, souvent prophétique, et ils ont tous apporté la même pensée, et ils ne se sont jamais connus. Quelle différence y aurait-il entre un Abraham et un Ésaïe ? Il s'est passé des siècles, et pourtant ils ont donné le même message. Quelle différence y aurait-il entre le prophète, enfin David, le roi David, et puis Jésus-Christ ? Et pourtant, ils se font référence, enfin, l'un fait référence à l'autre, et Jésus fera référence aussi à David. Ils ne se sont jamais connus, il y a des siècles de différence, de siècles à passer. Et qui sont-ils ? Dieu a choisi l'extraordinaire, parce que il a choisi des bergers, peut-être même à la limite des illettrés. Ah, c'est là où l'intelligence humaine vacille. Comment écrire ? Mais il savait quand même écrire, hein. Il a choisi des laboureurs. Vous pouvez me citer le nom d'un laboureur qui a été véritablement un écrivain sacré ? Amos ? Oui, vous savez ce qu'il cultivait ? Des sycomores ! C'est bien, hein, on n'en voit pas beaucoup par ici. Hein. Ça, c'est des arbres du Moyen-Orient. Il a suscité des rois qui se sont levés, qui ont écrit des choses formidables. Moi, je crois que le plus connu, pouvons-nous parler de David avec ses psaumes ? Salomon également, qui a écrit les proverbes. Les fils d'Azaph, qui n'étaient pas rois, mais enfin qui étaient dans les palais aussi. Il a suscité des princes. Il a suscité des prêtres ou des sacrificateurs. Je pense à Esdras, par exemple. Il a suscité des pêcheurs, avec le petit chapeau sur la tête, vous savez, celui qui va... Jean, Simon-Pierre, etc. Un médecin. On pense à qui ? À Luc. Des savants. Oui, il y en a eu. Des érudits. Écoutez, l'apôtre Paul... Hein, il nous a dit qu'il était formé à l'université de Tarse. À l'époque, c'était pas quand même un sot, cet homme. Et nous voyons que Dieu a suscité dans des générations différentes, des petits et des grands qui ont rendu témoignage de ce que, finalement, de ce que Dieu leur avait confié. Mais ce n'est pas venu d'eux-mêmes, de leur propre imagination et de leur propre culture, même de leur propre histoire, des faits de leur temps, pas du tout, mais c'est sous l'inspiration de l'esprit. Inspiration de l'esprit. Ouais. Qu'ils ont été capables de donner des révélations de Dieu. Inspiration, c'est quelque chose qui monte à votre cœur. Et qui là, à un moment donné, eh bien, va se former, va prendre forme d'une écriture et de laisser un message derrière. Et quelquefois, ils se disaient probablement, mais qu'est-ce que j'écris? Ce n'est pas de l'écriture automatique, ce n'est pas de l'occultisme, ce n'est pas des choses qu'aujourd'hui on pourrait qualifier finalement de tendancieuses, mais c'était la vérité. Où il y avait toujours au cœur de ces messages les principes de vérité, de liberté, de justice, d'un monde qui n'est pas seulement le monde des hommes, mais le monde de Dieu, ou le monde de Dieu qui veut s'installer parmi les hommes, et qui touche les cœurs. Parce qu'on ne change pas le monde avec l'extérieur, avec des conditions de bien-être ou de confort. Regardez, le monde n'a jamais été aussi évolué, mais il y a autant de gens malheureux, sinon plus. Donc c'est le cœur qui touche. C'est le cœur qui est touché. Et ils ont parlé de la part de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi Dieu dit. Ça revient des, je ne sais pas combien de fois. C'est pas dire Ésaïe ou Ésaïe dit, pas du tout. Lui, il n'est que le transmetteur, il n'est que le canal, il n'est que finalement, eh bien, l'agent, pour dire. Je vous ai parlé de Paul il y a un instant qui dira cette parole. Et ça montre finalement l'esprit de la révélation. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Et je pourrais même paraphraser Paul en disant, mais il pourrait dire, mais je sais en qui j'ai cru en Jésus-Christ, et c'est pourquoi j'ai écrit. Vous savez qu'il a écrit à lui tout seul 13 livres dans la Bible, Paul, les Épîtres. Parce qu'il a cru d'abord, et parce qu'il a cru à une inspiration d'en haut, eh bien, il n'a pas voulu le garder pour lui, il a senti qu'à un moment donné, il fallait l'écrire. Et dans quelles conditions il l'a écrit ? Souvent, le pauvre Paul, il était en prison, il a été maltraité, il a été banni, il a été rejeté, il a été contredit. Eh bien, c'est souvent dans des conditions très difficiles que l'écriture de la Bible a été faite. Les histoires, il y en a plein. Et Jésus dira à ses disciples, comme il le dit aussi à nous-mêmes, 21 siècles plus tard, ou 20 siècles plus tard, allez par tout le monde, prêchez la parole, annoncez la parole. Parce que celui qui croira, il sera sauvé. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas la parole, et c'est pas les discours, et c'est pas les prêches ou les prêchis-prêchas d'une religion d'une manière ou d'une autre, mais c'est la parole de Dieu que nous entendons. C'est pas de voir, c'est pas de ressentir, c'est de entendre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle se décline à travers une écriture, nous possédons la Bible, mais qu'elle se décline à travers le verbe, c'est-à-dire un prédicateur ou un pasteur qui parle, dans la mesure où il reste sur la parole, c'est la même chose. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il parle de différentes façons. Il parle à travers les circonstances, il parle à travers mille et une manières. Allez par tout le monde, prêchez, dites, annoncez. Et c'est un message universel, permanent. Puisque ça fait finalement des siècles et des siècles que nous possédons la Bible. La Bible a été brûlée. La Bible a été entachée de sang et de feu pendant les guerres de religion. Parce qu'il y avait ceux qui s'étaient éloignés et qui tenaient beaucoup plus à la tradition et à des fausses doctrines que ceux qui véritablement redécouvraient la Bible avec les principes essentiels de Dieu qui est le salut par la foi et non pas par les bonnes œuvres. Il y a eu des milliers de morts, ce qu'on appelle les guerres de religion, qui ont enflammé le monde, et particulièrement à commencer par notre pays et puis l'Europe. Et ces hommes ont fui, ils sont allés en Amérique du Nord, du Sud, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés par tout le monde, mais ils ont emporté un trésor avec eux. Le message de la Bible et le message de Jésus-Christ. Tout simplement. Autre particularité, parce que c'est le livre le plus ancien, il se trouve être le livre le plus actuel. Comment se fait-il qu'il y ait des millions de gens qui lisent encore la Bible aujourd'hui, alors que quelquefois on pourrait penser que tout ça c'est un vieil ouvrage à remettre ou à classer dans les antiquités? Non, c'est un livre qui parle à l'homme d'aujourd'hui. Parce que son message s'adresse, il est adapté au temps moderne. Eh oui. Et il répond à nos questions, il répond à nos préoccupations, ce que nous sommes. Maintenant, disons quelques mots sur son autorité. Bien que contestée, bien que souvent, mise à mal, par le refus d'y croire. Il y a des gens qui disent « arrêtez avec vos histoires, hein. La Bible, allez, on parle d'autre chose ». Eh bien, c'est pas parce qu'il y a des contradicteurs, c'est pas parce qu'il y a des gens qui brûlent, c'est pas parce qu'il y a des gens qui condamnent et qui condamnent sans savoir, eh bien, ça n'en demeure pas moins le fondement reconnu de divers courants, tout simplement, et de la pensée chrétienne. Et là, c'est aussi encore un autre problème. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des orthodoxes, il y a la pensée juive, pensée judaïque, il y a les musulmans qui se réclament du livre. Oui, parce que les trois religions, vous l'entendez à la télévision, on en parle beaucoup en ce moment, et on n'a pas fini d'en parler, hein. Mais les trois religions du livre, c'est l'islam, jusqu'à un certain point, hein. Avant Mahomet, Mahomet n'était pas, voilà, hein. Et puis le judaïsme, Jésus le dira, hein. Le salut vient des juifs, hein. Ça c'est une chose. Et puis après, il y a la pensée chrétienne. Et ce qui, quelquefois, est assez troublant, c'est que, il y a eu tellement de morcellement, il y a eu tellement d'interprétations, il y a eu tellement de contestations, en se dire, mais c'est moi qui ai la vérité. C'est nous qui possédons ceci et cela, vous, vous êtes rien du tout. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Moi, je crois que Dieu pleure, parce que quand quelqu'un parle comme Dieu et que personne ne le comprend, ou que tout le monde comprend de travers, ou il y en a beaucoup qui comprennent de travers en disant, mais Dieu peut dire, j'aurais mieux fait de me taire. Et pourtant, il a parlé. Il a parlé pour les cœurs sincères. Il a parlé pour ceux qui aspirent à la vérité, à ce qui est bien, ce qui est juste, le bien suprême de Dieu. Et ça, on peut l'entendre. Mais faut-il avoir un cœur pour l'entendre? Oui. La Bible, c'est un livre de révélation étonnant. Dieu s'y découvre dans son caractère, dans ses attributs, dans son être, dans sa justice parfaite, dans son amour infini, dans sa sainteté. Ouais. Alors c'est à travers les pages, quand vous lirez la Bible, vous direz, tiens, faudrait que je cherche un petit peu, où est le caractère de Dieu dans tout ça? Ben, vous allez le trouver immanquablement, parce que, comparativement à l'homme, vous allez voir que il n'y a pas photo, hein. Il y a la sainteté de Dieu, il y a la vérité de Dieu, la justice de Dieu, et puis après vous avez en noir et blanc, et quelquefois en noir surtout, eh bien ce que sont les hommes. Tiens, à propos, parce que la Bible nous parle de l'homme, et je dirais que comme nous le chantons quelquefois dans un petit cœur, plein feu sur la Bible. Et là on peut faire plein feu sur l'homme, dans sa nature. Dieu nous révèle notre nature, il nous révèle notre péché, il nous révèle notre état, il nous révèle notre perdition, il révèle notre âme, que nous ne sommes pas faits seulement de chair, mais que nous avons aussi notre dimension d'âme et d'esprit, une personnalité qui n'a rien à voir avec l'animalité et la bestialité. L'homme est un être supérieur, il nous parle de son salut, mais Dieu ne s'en tient pas à dire « vous êtes sur la terre et puis je vous ai dit tout ce que vous êtes ». Mais il nous parle aussi de sa destinée, la destinée des hommes pour l'éternité. Et ça, c'est la grande espérance que nous avons, naturellement, vous le savez. Plein feu sur les réalités de la vie, tout simplement. La vie visible, ce que nous voyons, parce que nous avons une perception avec nos yeux, naturellement, parce que nous sommes des êtres de la terre. Mais la Bible nous fait une grande révélation sur le monde invisible, Dieu, les démons, les anges. Et puis tout ce que nous ne pouvons pas percevoir. Et ce que nous savons de tout cela, c'est vraiment quelque chose d'infime. Mais Dieu nous fait la promesse que lorsque nous serons dans l'autre dimension, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et nous connaîtrons parfaitement. Nous, quand on dit « je sais »,« je connais », on ne connaît rien. Voilà. Parce qu'on a tout à apprendre. Réalité visible et invisible, le fonctionnement des lois naturelles qui nous parlent de Dieu et des lois surnaturelles. C'est Paul qui le dira, mais que lorsque nous considérons la création, dans ses aspects les plus visibles, alors à ce moment-là, nous découvrons sa puissance, sa divinité, son autorité, sa souveraineté. Regardons et sachons regarder dans un monde où nous sommes toujours en TGV. Et nous ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Les hommes ont perdu le sens de regarder, d'observer, de savoir que tout parle de Dieu. La beauté des fleurs, des animaux, la variété, la multiplicité, tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, les couleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, cet après-midi, vous allez à la campagne, vous allez faire un petit tour, vous allez voir comment les arbres sont en train de s'éveiller à une vie nouvelle avec le printemps. Ben, venez quand même à la réunion quand même. Hein. Bon, vous venez si vous voulez. Mais toujours est-il que tout nous parle de Dieu et c'est extraordinaire de savoir s'arrêter et de dire « mais Dieu est en cela, même dans le fonctionnement du corps humain, quand ça va bien, quand on est en bonne santé, on s'aperçoit pas, hein, tout ça. Hein. C'est quand ça va mal qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Mais quand on est, c'est formidable. Seigneur, c'est David qui dira, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Attention à l'orgueil, hein. Mais toujours est-il que c'est Dieu qui est le créateur. Il nous le dit dans sa parole. Si vous lisez le livre de Job, si vous lisez le livre, par exemple, des Proverbes, vous verrez combien la beauté même de la création. Il est parlé du minéral, il est parlé de l'animal, il est parlé de végétal et toutes sortes de choses. Moi, je m'enthousiasme. Ça se voit pas, non? C'est vrai. C'est extraordinaire. Et la Bible nous parle de tout ça. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Réalité naturelle et surnaturelle. La terre, le ciel, les anges, les démons, ça c'est un peu moins intéressant, mais ce sont des réalités, parce que derrière ce monde occulte, il y a le mal, il y a la mort, il y a la destruction, et le bien c'est le contraire. Est-ce que les hommes ne comprendraient pas ce genre de choses? La Bible proclame et affirme la vérité. Elle ne cherche pas à se justifier dans des arguments. Dieu ne cherche pas à dire des preuves, je me prouve moi-même. Non, Dieu dit. Vous voyez la différence? Dieu ne discute pas comme les hommes discutent. Dieu dit, c'est ainsi. C'est tout. Ça apprend ou à laisser, tout simplement. Mais propose à la conscience humaine, elle incite à l'expérience. Tout simplement, seul celui qui croit comprend et connaît. Si je me prête entre les mains de Dieu, et si je le prie en disant, Seigneur, instruis-moi, donne-moi de comprendre. Aide-moi à avoir la foi pour comprendre. Aide-moi à te connaître. Mais le Seigneur va le faire sans problème. C'est pour ça que dans le psaume 130, il est dit cette parole. C'est, je crois, David, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est le roi David qui dira, mais la révélation de tes paroles, elle est claire. Et si nous nous souvenons les uns et les autres, lorsque nous avons lu la Bible pour la première fois, moi, ça fait 43 ans, 45 ans maintenant, on m'a offert une Bible. Et quand j'ai lu ce livre, je le dis à chaque fois, je me répète, mais je vieillis. Bon, là, vous m'excuserez. Mais toujours est-il que quand j'ai lu ce livre, c'était une approche tout à fait particulière parce que je me dis, c'est pas un homme qui me parle. J'ai senti comme si c'était Dieu qui me parlait à moi-même. Comme s'il s'adressait à moi, moi tout seul. Et là, ça a été quelque chose de merveilleux. J'ai découvert, et ce livre s'est ouvert. Le monde s'est ouvert. J'ai eu un autre regard sur la vie. Ouais. J'ai été convaincu, hein, ça fait 45 ans maintenant. Hein. Et c'est pas moi qui ai tenu le coup. Hein. C'est Dieu qui m'a tenu dans sa main. Et tous les jours, j'apprends. Et tous les jours, je découvre. Et que lorsque je regarde de droite et de gauche, j'assimile. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est toi qui es en tout. C'est toi qui es partout. C'est toi qui es sur tout. En tous les cas, tu es sur ma vie. En tous les cas, tu es dans ma vie. Ouais. La révélation de tes paroles, eh bien, est claire. C'est à la fois un livre simple et difficile, figurez-vous. Parce que la simplicité de la lecture de la Bible tient à la foi qu'elle nous inspire. Je crois, c'est simple. Quelquefois je le dis aux gens quand ils viennent dans les réunions d'évangélisation, je dis, mais être sauvé, c'est simple, vous n'avez rien à faire. C'est simplement de croire. Oui, la foi qui nous inspire donne de la simplicité. La difficulté, elle vient des doutes et de l'incrédulité. Je ne veux pas croire, ben, je ne crois pas. Alors à ce moment-là, je vais buter sur tout. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir s'il n'y a pas la foi. Mais les portes de la révélation, les portes de la communication avec Dieu s'ouvrent quand il y a la foi. Parfois, la Bible brutalise. Elle irrite. Elle surprend. Certains passages sont obscurs. Il faut le reconnaître. Certains même sont scandaleux. Waouh ! Je prends des risques là. Hein ? Ouais, vous avez tous été confrontés à un moment donné à des choses qui sont scandaleuses. Alors quand la Bible irrite, quand elle brutalise quelquefois notre sensibilité, oui, eh bien tout simplement, certains passages, en cause de leur obscurité, eh bien c'est qu'elle se fait écho, la Bible. Écoutez bien, ça c'est important parce que ça classe les choses. Parce qu'elle se fait alors écho d'expériences vécues par les hommes. Par les hommes qui mentent. Les hommes qui trompent, les hommes qui volent, les hommes qui tuent, les hommes qui font n'importe quoi, qui font couler le sang. Et tout ça par cupidité, tout ça par haine, tout ça par envie, tout ça parce que le cœur de ces hommes qui sont dans la Bible sont des hommes qui sont mauvais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'un homme mauvais, si à un moment donné il se tourne vers Dieu, eh bien son cœur peut être changé, il devient une nouvelle créature. Parce que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Le mal restera toujours le même, mais avec la puissance qui est dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de vie, Si l'homme consent à vouloir marcher avec Dieu, eh bien il peut être une nouvelle créature. Ça, c'est la plus grande de toutes les révolutions. Un homme qui se convertit, c'est plus grand qu'un boiteux qui marche et un aveugle qui voit. C'est plus grand que de transporter des montagnes. Et il y a Dieu qui peut le faire. Oui. Écho d'expériences vécues par des hommes dont elle éclaire les défauts, les travers, les chutes. Et ça, c'est d'un profond réaliste. Parce qu'on nous aurait dit, mais votre Bible, elle n'est pas réelle, parce que vous parlez d'un idéal céleste, etc., ou le paradis perdu, voilà, bon. Et comme certains ont essayé de tenter l'expérience, de retrouver finalement ce qui avait été perdu. Mais elle est réelle parce qu'elle parle véritablement de la réalité de notre monde. La Bible ne décrit pas l'homme idéal. Non. L'homme parfait. Mais elle décrit l'homme de tous les jours. Hein, celui qui se cache en chacun d'entre nous avec ses qualités et ses défauts, avec le pire et le meilleur. Vous avez par exemple un cas comme David, qui était un homme de Dieu remarquable, un homme de foi. Et il n'est pas fait, finalement, quand il est parlé de la vie de David sur toute sa longueur, eh bien très souvent il nous est parlé d'un homme qui aime Dieu, et à un moment donné il va chuter, il va tomber. Il va tomber dans l'adultère, il va tomber dans le mensonge, il va tomber dans le crime. Ça, c'était David. Mais comme David a su se rattraper à Dieu, de demander pardon, de dire « Seigneur, j'ai honte maintenant, je me sens sale et souillé, mais Seigneur, change-moi !» Il est revenu de sa mauvaise voie, il s'est tourné vers Dieu, fils prodigue, et Dieu lui a pardonné ses péchés. Et lui a redonné une nouvelle vie, dont ses expériences amères de chute et de péché ont fait de lui un homme différent. Et qu'est-ce que vous pensez de Jacob? Il était bon lui aussi. Hein. Eh oui. Ouais, c'est ça la Bible. Elle regarde vrai, elle nous dit le vrai. Et elle est pleine de miséricorde pour celui qui sait se repentir et celui qui sait se reprendre. Elle nous parle de l'homme dans le pire et dans le meilleur. La Bible ne voit pas l'homme avec ses masques, avec ses maquillages, avec ses apparences, avec ses voiles, avec ses feuilles de figuier, vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui... Il voit le vrai parce que la Bible regarde au cœur et pas aux apparences. Parce que vous savez aussi bien que moi que l'habit, il fait pas le moine, hein? Voilà, tout simplement. Que de dissimulation, mais les yeux, c'est parce qu'il regarde non pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde ce qui se fait dans le cœur de l'homme. Et vous savez, ça peut être très troublant, ça. Vous savez, des gens qui ont toute l'apparence, mais qui ne sont pas en réalité. Et il y a des gens qui, quelquefois, ne paient pas de mine, et quelque part, ce sont des gens profondément bien et qui aspirent au bien au fond de leur cœur. La Bible, c'est un véritable révélateur, c'est un miroir. Nous en avons parlé tout à l'heure. Enfin, je termine. La finalité de la Bible, son but ultime, sa raison d'être, tant qu'il y aura des hommes sur la terre. Écoutez bien, parce que ça, c'est important. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Que ce matin, nous soyons sauvés, et nous le sommes, et que nos amis qui nous rejoignent et qui ne le sont pas le soient. Sauvés en croyant en Jésus-Christ. Et sauvés pour être transformés maintenant dans une vie nouvelle. Parce que Dieu veut vous donner la vie. Vous croyez avoir la vie? Nous croyons avoir la vie. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous sommes morts. Ça, c'est aussi la vérité. Elle est abrupte, hein. Elle est violente, cette vérité. Parce que nous avons, avant de nous connaître, de connaître le Seigneur, nous pensions avoir la vie. Nous pensions avoir ceci et cela, parce que nous étions naturellement issus d'une religion, mais c'est pas la religion qui sauve. Hein. C'est la foi en Jésus-Christ. Et Dieu nous a transformés, il nous a changés, tout simplement. Et ça s'appelle une grâce. Quelqu'un a dit, comme nous l'avons marqué sur un de nos petits traités, posséder une Bible ne suffit pas. Sous le bras. Il faut la lire. Il y en a qui se sont tenus à la couverture. Trois mots, la Sainte Bible. On va pas loin avec ça. Hein. Donc, posséder une Bible ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut la croire. Parce qu'autrement, ça sert à rien. Croire la Bible ne suffit pas. Il faut la vivre. Si vous la vivez pas, ça ne sert à rien. Vanité des vanités et poursuite du vent, tout est vanité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme s'intéresse si peu à ce que Dieu a à lui dire? L'homme d'aujourd'hui, l'homme tous les jours. Et pourtant, il a à lui dire un message avec une portée éternelle. Il nous est dit que Dieu t'en parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. ce qui est la tristesse de nos pays, derrière une appellation de christianisme, c'est que les gens, finalement, sont dans l'indifférence complète et totale d'une autre dimension, d'une autre vie. Alors Dieu parle, il ne cesse pas de parler. Tout ça à cause d'un refus, à cause d'un désintérêt, d'une négligence, d'un mépris ou même d'une aversion contre la Bible ou contre Dieu. Et pour terminer, nous allons voir pourquoi la Bible est si méconnue dans sa valeur spirituelle. Et je relis ce texte. Il est dit cette parole. Toute la révélation, verset 11, hein, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire et disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne peux pas lire » parce qu'il est fermé, il est cacheté. Comprends pas. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Alors, on avait commencé par là, on va terminer de la même manière. Hein. Mais ça veut dire une chose. C'est que dans les deux cas de figure, celui qui sait lire et celui qui ne sait pas lire, eh bien, deux cas qui se présentent, on offre à un homme qui est un lettré, celui qui sait lire, il n'est pas analphabète, il sait lire, c'est un lettré. La parole de Dieu, il sait lire la parole de Dieu, mais le sens du message, il sait lire en tous les cas, voilà. Mais le sens du message qu'il a sous les yeux lui échappe. Il peut lire, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Parce que il y a quelque chose, c'est la connaissance qui fait défaut. Et s'il ne peut pas, il n'aura pas plus de connaissance. Parce que pour rentrer dans la connaissance de Dieu, il faut lire sa parole, naturellement. Mais c'est pas tant la connaissance, je l'ai dit, mais c'est surtout l'incrédulité de son cœur qui lui obscurcit la compréhension. Il ne veut pas. Toute la révélation est pour lui comme les mots d'un livre cacheté, un mot scellé. En conséquence, il ne peut pas comprendre, et comme il ne peut pas comprendre, ça le désintéresse, il s'en détourne, et il ne veut pas, et quand on ne veut pas, on ne peut pas. D'accord? Il y a un engagement de notre volonté. Ça peut être un érudit, ça peut être quelqu'un qui, là, connaît beaucoup de choses, mais parce qu'il n'engage pas, parce qu'il ne veut pas aller plus loin, parce qu'il se dit « mais pour moi c'est obscur, c'est, je ne comprends pas du tout », alors à ce moment-là c'est l'incrédulité qui va faire qu'il va finalement eh bien buter. Et son cœur va rester dans l'incompréhension, dans la contradiction, même dans une certaine forme de révolte. C'était le cas des pharisiens, vous vous souvenez là? Ah, ils connaissaient la Bible, hein, sur le bout des doigts. Mais alors je peux vous dire que les vérités essentielles, fondamentales, ça descendait pas plus haut. Ils étaient religieux, ça suffisait pour eux. Mais Jésus va être très sévère avec eux. Vous avez en main l'essentiel de ce que Dieu veut vous dire et vous ne voulez même pas y plonger les regards et y mettre un peu votre cœur. C'est terrible. Alors, cet homme s'en va, il se détourne et il dira « mais je ne le peux ». Donc, le privilège qui a été d'avoir finalement de savoir lire, ça va devenir caduque et on peut dire que c'est demeuré une lettre morte. Et la Bible, depuis des siècles et pour des millions et des millions, hélas, de personnes, c'est devenu une lettre morte. Un vieux livre poussiéreux qui n'a plus rien, aucun intérêt. Comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. C'est le contraire. Cette fois, ce qui fait défaut, c'est l'ignorance. Ah oui, il est ignorant, il ne sait pas lire. Et c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose de fondamental dans une vie. Hein. Apprendre à lire, c'est nous ouvre les portes de la connaissance. C'est pour ça que déjà tout petit, on commence, et voilà, c'est tout à fait légitime. Alors, c'est l'ignorance, il ne sait pas, telle la multitude des hommes qui se reposent et se laissent tout simplement conduire ou égarer par ceux qui se présentent savoir. Alors, il se laisse raconter toutes sortes de choses. Et une grande partie des religions, même chrétiennes, on a l'homme personnel, l'homme personnellement abdiqué, finalement son salut entre les mains de religieux, ou entre les mains de gens qui disaient « mais vous tracassez pas, nous on vous prépare le ciel, si vous donnez un peu d'argent, si vous faites ceci et cela, on s'occupe de vous. Si vous n'avez pas un fauteuil, vous aurez un strapontin, hein, y a pas de problème, hein, y aura une place dans le train. Hein. » Non, mais ça c'est une aberration, c'est une escroquerie intellectuelle. Alors, il se dit « c'est pas la peine que je pense à mon salut, puisqu'il y en a d'autres qui pensent pour moi. » Mais dans Matthieu, il nous est dit cette parole au chapitre 15 et au verset que je retrouve brièvement, au verset 15 et chapitre 15, pardon, et au verset 14. voilà, que j'ai tellement de pages dans ma Bible, je sais pas si la vôtre c'est pareil, mais, 15, 14, voilà. Il est dit, cette parole, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la même chose, dans le même trou, en quelque sorte. Ça, c'est le drame, finalement, de ne pas vouloir personnellement par nous-mêmes chercher nous-mêmes, mais de laisser à d'autres. Le drame de cette catégorie, c'est sa totale passivité qui aboutit naturellement à un aveuglement spirituel et à un culte formaliste et infantile. C'est pour ça que les gens se détournent ils se détournent finalement de la religion, ils se disent, mais c'est toujours la même chose, c'est des rites, c'est ceci, debout, assis, etc. Mais ça n'a plus rien, ça n'a aucun intérêt. C'est du ritualisme, c'est du formalisme. Et on comprend que les gens s'en détournent, ils ont raison de s'en détourner. On leur donne pas la nourriture, on leur donne pas la substance même pour qu'ils deviennent des chrétiens et des adultes, naturellement. Alors il répondra à cet homme, il va s'excuser, je ne sais pas lire. Inertie morale. On peut dire ça de cette manière. Et la réponse de Dieu, à ces deux cas, celui qui ne veut pas, qui pourrait mais qui ne veut pas, et celui qui voudrait mais qui ne peut pas parce qu'il ne sait pas lire, et qui se confie dans d'autres, la réponse de Dieu est celle-ci, ça se trouve dans le livre de Deutéronome, si ma mémoire est fidèle. Dieu dira à Israël, si tu me cherches, écoutez bien, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, ta personnalité. Si tu me cherches de toute ta force et de toute ta pensée, qu'est-ce que Dieu répond ? Je me laisserai trouver par toi. C'est simple. Ça, c'est la réponse de Dieu. Paul va surenchérir quand il dira « Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et tant d'autres comme ça, naturellement. Jésus ira beaucoup plus loin encore pour éclairer la question de la compréhension de l'écriture de la Bible. Il n'hésitera pas à mettre en opposition le cœur et l'intelligence de l'homme. En d'autres termes, soit la conscience morale humaine et la tête. Dieu ne nous propose pas, sans que nous abdiquions notre intelligence et notre fonctionnement cérébral, mais Dieu ne met jamais l'accent sur le côté intellectuel. Mais il met l'accent sur notre cœur. Ça, c'est la grande différence. C'est pourquoi dans Matthieu, et nous l'avons lu, et peut-être est-il utile d'y revenir simplement au verset 25, en ce temps-là, il nous est dit, Jésus a fait une prière, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Quelle différence y a-t-il ? Le sage et l'intelligent, celui qui ne compte que sur lui-même, ses analyses, ses déductions, et qui ne voit rien d'autre. Et puis celui qui est considéré comme un enfant, mais qui va ouvrir son cœur. Parce que le cœur d'un enfant, il est simple, il est spontané, il est humble. La connaissance enfle, nous dit. L'intellectualisme enfle, nous dit l'apôtre Paul. Et Paul était un universitaire, Donc il avait changé les choses pour lui, en tous les cas. Mais Dieu veut qu'il y ait cet ensemble. Vous écoutez ce matin et vous comprenez avec votre intelligence et Dieu soit béni. Mais il ne veut pas que ça reste dans votre tête, il veut que ça descende dans votre cœur pour que ça devienne pratique et que ça devienne la vie, en quelque sorte. Il n'est pas surprenant que Dieu se cache aux uns et se révèle aux autres. Qu'est-ce qui fait cette apparente sélection choquante des penseurs et puis ceux qui ont un cœur ? Dieu ou l'homme ? Soyez sages et intelligents. Ceux qui ne le sont pas, à leurs propres yeux, ce sont ceux qui vont comprendre. À partir du moment où nous mettons notre sagesse au-dessus, en disant « moi je veux tout comprendre, je veux comprendre de Dieu, je veux comprendre les mystères, je veux comprendre les miracles, un miracle qui est compris, c'est plus un miracle. » Ah oui, parce que c'est surnaturel. Et à partir du moment où nous descendons un peu de nos échelons, que nous disons « mais je me présente devant toi, mais je ne suis rien, je ne peux rien, sans toi je ne suis rien Seigneur. » Alors à ce moment-là, Dieu va se révéler. C'est quand on s'humilie. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux, vous connaissez. Et les hommes qui s'orgueillissent de leur savoir, qui s'enorgueillissent. Je sais, je sais, je sais. Eh bien, ils ne savent rien de ce qu'il faut savoir. Des vérités, de la vérité de Dieu. La vraie connaissance est une connaissance qui vient de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, il est question de naître de nouveau. Ouais, une nouvelle naissance. Paul dira, lui, l'intellectuel, l'universitaire, il dira, mais j'ai regardé ces choses comme de la boue. parce qu'aujourd'hui je connais Christ. Et en connaissant Christ, nous connaissons tout. Et c'est là ce qu'il a écrit, ce monument de la théologie chrétienne, l'Épître aux Romains et l'Épître aux Éphésiens. Naître de nouveau, voir et entrer dans le royaume de Dieu réservé aux enfants. C'est pas de l'infantilisme, naturellement, on l'a compris. Ce sont les petits et les humbles étrangers à la sagesse des écoles. Ça ne nuit pas, hein, au contraire. Conscients de leur ignorance et de leurs besoins, qui reçoivent dans leur cœur la lumière d'en haut et se mettent à l'école pratique de Jésus-Christ. Matthieu, dans Matthieu 16, c'est ce que Jésus révélera à Simon-Pierre. Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Merveilleux, Seigneur, quand je me convertis, alors le voile tombe, et là je comprends ce que je n'avais jamais compris. Et plus je comprends les choses de Dieu, plus je dois être humble, parce que le contraire, c'est vraiment quelque chose d'anormal. Alors à l'orgueil de l'intelligence, il est répondu par l'aveuglement, l'endurcissement et l'incrédulité. À la simplicité du cœur qui aspire à la vérité, il est répandu la révélation. Tu l'as révélé aux enfants, tout simplement, et à cette illumination intérieure que Dieu nous donne, qui va se transformer dans une conviction et dans la foi. C'est ça le fruit, la conviction, la certitude, l'assurance, la foi. Et c'est ça ce qui nous fait vivre en quelque sorte. C'est ça ce qui est notre vie et qui fait dire aux vrais croyants ces mêmes paroles de Jésus que vous connaissez, ta parole, Seigneur, est la vérité. Pour nous, nous tenons la parole de Dieu, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme l'autorité de notre foi et de notre vie, et nous la tenons comme la vérité, et cette vérité nous donne la vraie liberté en Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons simplement terminer en priant. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. L'apôtre pouvait dire tant de choses, ta parole est la vérité, c'est vrai, toi tu l'as dit aussi. Mais Seigneur, nous voulons emprunter ces mots, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'elle le soit pour mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent en grandir, qu'ils puissent croître, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent être féconds, Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Et Seigneur, tu ne nous as pas demandé, Seigneur, de rejeter tout, de devenir des marginaux, Seigneur. Mais tu nous as demandé, Seigneur, d'avoir un regard qui soit un regard éclairé à ta lumière, à la connaissance qui est la tienne. Je te demande de bénir ton Église pour qu'elle grandisse dans la foi, qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse et qu'elle se développe pour faire connaître la parole de Dieu partout, comme tu nous l'as dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle de la création à toute la création, la nouvelle du salut, la nouvelle de Jésus-Christ, vérité et liberté. Merci mon Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.